RTL Info, le journal Myriam Widvert.
Bonjour, les habitants de Val-de-Ruz soutiennent le bibliobus. L'initiative pour son maintien a récolté les signatures nécessaires en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et la bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds se passionne pour le 9e art. L'institution expose sur ses murs les planches originales de L'Or des Sapins, une bande dessinée qui se déroule au 18e siècle dans les montagnes neuchâteloises. Des retrouvailles ce soir en Swiss Basketball League. Union Neuchâtel affronte le BBC Monthey à partir de 18h. L'entraîneur de l'équipe valaisanne Manu Schmidt, que vous entendrez dans le point sport, revient pour la première fois à la Riveraine depuis son départ il y a un an et demi. Temps sec cet après-midi, quelques flocons ce soir. Météo complète après le point sport. Trois mois d'avance et 300 signatures de plus que le minimum exigé. Le comité de l'initiative pour le maintien du bibliobus à Val-de-Ruz a remis les 1616 paraphes récoltées et validées par la chancellerie au conseil communal. La population a réservé un excellent accueil aux initiants. Berthe Hélène Balmer, membre du comité.
Nous avons été très bien accueillis par des parents, par des gens d'un certain âge qui vont régulièrement au bibliobus et par les gens habitant, surtout les communes excentrées, Montmolin, Savagnier, La Côtière, Villers-d'Ombresson, Le Paquier, Fontaine ici, on a eu aussi pas mal de paraphes. Tout, au fond, on a eu des paraphes de toutes les communes. La seule un petit peu moins représentée, c'est peut-être les Genevais-sur-Cofrane. Certaines personnes nous ont dit, mais nous, on a une bibliothèque. C'est vrai qu'il y a deux bibliothèques fixes actuellement, une au Genevais-sur-Cofrane, l'autre à Fontaine-Melon. Mais s'y rendre avec les transports publics et même en voiture, ça peut poser des problèmes pour certains. Et puis, pour les classes, ce n'est pas facile non plus. Alors que, comme ici à Fontaine, on voit les classes qui défilent avec des livres, on se rend bien compte que c'est valable d'avoir un bibliobus qui dessert les collèges.
La conseillère communale Anne-Christine Pellissier, qui est venue réceptionner les paraphes, a laissé entendre que la population aurait à choisir entre le bibliobus et les bibliothèques communales de Fontaine-Melon et des Genevais-sur-Cofrane. Selon les initiants, il existe une autre solution, celle d'intégrer les bibliothèques fixes dans le réseau du bibliobus, comme cela se fait déjà dans d'autres communes du canton. C'est une boisson pour certains et un véritable rituel pour d'autres. Le thé est à l'honneur aujourd'hui. Le 15 décembre est la journée internationale du thé. Si les Japonais ou les Anglais ne jurent que par cette boisson, les Suisses, eux, sont plutôt café, avec une consommation moyenne d'environ 3 tasses par jour en 2016. Reste-t-il de la place pour le thé sur le marché ? Anne Schildkler a créé sa maison de thé en 2006 à Neuchâtel. Elle nous livre son point de vue.
Effectivement, depuis quelques années, on voit que les gens s'intéressent de plus en plus aux choses qui tournent autour du thé parce qu'en fait, ils voient que c'est une boisson qui est agréable et qui apporte des bienfaits. Des bienfaits au niveau de la santé, mais pas seulement, aussi des bienfaits parce qu'en fait, quand on boit un thé, on prend le temps. Donc, c'est un petit temps de pause qu'on s'accorde. La boisson était auparavant bu, on va dire, par une certaine catégorie de personnes, alors que maintenant, on va dire que toutes les catégories de personnes sont représentées, ainsi que les messieurs. Auparavant, les messieurs buvaient du thé que s'ils étaient malades, tandis que maintenant, ils boivent du thé pour le déguster aussi et pour les bienfaits du thé en général. Et ça, on va dire que auparavant, si on avait un pourcentage de 10% sur la population buveuse de thé par rapport au café, eh bien maintenant, on en est à peut-être un 20%. Donc on voit qu'il y a une recrudescence importante.
Un sujet d'Anastasia Lirti. En France, la mobilisation des gilets jaunes est en baisse. Ce matin vers 11h, un peu plus d'un millier de manifestants étaient recensés à Paris. Une soixantaine de personnes ont été interpellées, selon la préfecture de police de Paris, contre 500 à la même heure samedi dernier. La Turquie appelle les autorités irakiennes à coopérer dans la lutte contre le PKK, les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan. Elle a invoqué son droit à la légitime défense pour intervenir en Irak. Le ministère turc de la Défense a annoncé jeudi que des frappes aériennes avaient été lancées contre des cibles du PKK dans le nord de l'Irak, touchant des tunnels et des abris. Et l'Australie reconnaît Jérusalem-Ouest comme la capitale d'Israël. Canberra n'entend toutefois pas déménager la mission diplomatique de Tel Aviv avant la conclusion d'un accord de paix.
Le magazine.
Une bande dessinée locale à l'honneur à la bibliothèque de la ville à La Chaux-de-Fonds. L'institution accueille une exposition des planches originales de L'Or des Sapins, une bande dessinée de Mauro Frascotti et Raoul Kopp. L'histoire se déroule dans la région entre La Chaux-de-Fonds et Besançon, mais pour les auteurs, l'ancrage géographique ne devrait pas empêcher d'exporter cette bande dessinée. Mauro Frascotti et Raoul Kopp.
J'imagine que les amateurs de BD, qui aiment l'histoire, en l'occurrence, ils vont avoir du plaisir à ouvrir cette BD, peu importe où elle se déroule. Non, je ne crois pas que c'est un souci majeur. Je voudrais dire que, en fait, chaque BD est imprimée dans un terroir. Si on creuse un peu, il y a toujours derrière une BD, soit un milieu social, soit un milieu historique, un milieu géographique, un milieu économique, mais quelquefois le tout. Donc je pense que la nôtre ne fait pas exception. Simplement, on invite le lecteur à se reporter bien en arrière, voilà, au XVIIIe siècle.
C'est un premier tome, il y aura une suite ?
Alors, oui, effectivement. Alors là, on est obligé un petit peu de parler du défi qu'on s'est mis. Donc cette histoire va avoir deux autres opus qui seront dans le temps alors très différents, puisque on reprend en fait la même histoire qu'on va renégocier entre guillemets au 21e siècle, et ensuite dans un futur hypothétique qui sera, je sais pas, le 23e siècle par exemple. Et du coup, l'intérêt finalement de cette histoire devient pluriel, parce que on change l'architecture des lieux, on change les dialogues. Évidemment, les personnages ont aussi changé en fonction de ce qu'ils vivent. Ce sera en quelque sorte des descendants, probablement. Donc oui, c'est un défi intéressant et dans la durée.
Est-ce que finalement, ça change aussi le style de BD ? Là, vous étiez plutôt dans quelque chose d'un peu historique, contemporain, science-fiction. C'est trois genres totalement différents ?
Alors clairement, au niveau graphique, je vais chercher à faire trois choses différentes. Il faut qu'on marque les époques d'une manière, pas seulement uniquement au niveau de ce qu'on va raconter, mais aussi au niveau graphique, ça me paraît essentiel. Par exemple, le premier tome qui se passe au 18e, comme je l'ai dit, a été conçu à l'aquarelle par Moreau, ce qui en fait est une technique traditionnelle et qui est bien ancrée dans le temps. Et puis, ben voilà, Mauro va trouver ou choisir une autre technique pour le tome 2, qui se passera donc à l'époque actuelle, et une autre encore pour le tome 3. Voilà. Et les personnages seront, je dirais, leur mentalité, leur personnalité sera adaptée également, pas seulement le décor. Et l'aventure, évidemment, bien sûr aussi, parce qu'on ne peut pas, on ne vit pas de la même manière, on n'a pas les mêmes péripéties face à la délinquance, face à l'amour, parce que c'est aussi une histoire. Il n'y a pas que de l'aventure, c'est aussi une histoire amoureuse. Donc tout change d'une époque à l'autre, en fait.
Là, le premier tome est sorti depuis un mois, on l'a dit. Est-ce que vous mettez la pression dans les délais pour un deuxième ou un troisième tome, ou finalement ils sortiront quand ils sortiront ?
Bon, on va essayer de pas trop tarder, parce que dans le fond, on est dedans maintenant les deux. On a appris à travailler ensemble, donc c'est important. Donc, on n'a pas une pression d'un éditeur qui serait de dire à telle date, il faut le second. Mais on va chercher à être le plus précis et le plus rapide possible.
Les planches originales de L'Or des Sapins sont à découvrir jusqu'au 16 mars à la bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds. Les auteurs sont en dédicace cet après-midi à la librairie Impression à La Chaux-de-Fonds et vendredi prochain chez Payot à Neuchâtel.
RTN 12h24. Sport.
C'est le moment d'ouvrir la page sportive de ce midi avec vous, Jean-Paul Pitchy. Bonjour.
Bonjour Myriam.
Et tout de suite, on chausse les skis en direction de Val Gardena.
Eh oui, la station italienne qui est le théâtre d'une descente homme. La course a commencé à 11h45. Pour l'heure, la première place est occupée par le Norvégien Alexander Kilde devant l'Autrichien Max Franz et l'Américain Brice Bennett. Meilleur Suisse pour l'heure, Mauro Caviezel, qui s'affiche à la cinquième place provisoire. Manu Schmitt retrouve la salle de la Riveraine pour la première fois depuis son départ. Il y a un an et demi, l'entraîneur et son équipe du BBC Monté affrontent Union Neuchâtel en Swiss Basketball League. Coup d'envoi de ce match ce soir à 18h. Une partie qui sera également la première sur le banc du nouvel entraîneur de la formation neuchâteloise, Mehdi Marie, dont l'engagement a été annoncé jeudi. Au classement, Union s'affiche au 3e rang. Monté n'est pas loin, à la 5e place, avec seulement 2 points de retard sur les Neuchâtelois. Mais les Valaisans n'abordent pas ce duel dans les meilleures conditions, comme le souligne l'entraîneur de Monté, Manu Schmitt.
Malheureusement pour nous, je dirais, on a quand même vit quelques semaines très compliquées puisqu'on a beaucoup de joueurs absents. On est dans une période où il faut vraiment qu'on laisse passer l'orage. On n'arrive pas avec toutes nos forces, ça c'est clair. Donc ça va être un match que je crains beaucoup parce qu'il nous manque quand même beaucoup de nos atouts. Donc il va falloir affronter cette équipe d'Union qui est une équipe qui a été construite cette année vraiment pour jouer le très très haut du tableau. Donc je m'attends à un match extrêmement difficile pour nous.
Union Neuchâtel réalise une bonne première partie de saison. Votre analyse, les points forts et les points faibles de cette équipe à vos yeux?
C'est une équipe qui est très complète. Je crois qu'il y a des moyens vraiment, vraiment importants qui ont été mis cette année par le président Sivero et puis dans l'ensemble du comité pour qu'Union joue vraiment le très haut de tableau. Donc c'est une équipe qui est très, très complète, qui a une très grosse profondeur de banque, qui a évidemment des joueurs de talent, que ce soit les joueurs suisses et les joueurs étrangers, donc c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de failles. Voilà, donc un gros morceau pour nous. Je pense que c'est une équipe qui est à l'heure actuelle, en tout cas en l'état de nos forces en présence, qui est, je ne veux pas dire injouable pour nous, mais ça va être très 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 compliqué. Donc on se prépare pour ça, en sachant qu'en plus on aura le match de coupe à la fin du mois de décembre à jouer à Neuchâtel également. Donc ça va être encore une quinzaine de jours très compliqués pour nous.
Union Neuchâtel Monté, c'est à vivre en direct sur RTN ce soir dès 17h45 en compagnie de Marcel Neunschwander. Une petite claque pour la sélection helvétique de hockey sur glace pour son dernier match avant la préparation en vue du championnat du monde à Bratislava en Slovaquie. La Suisse s'est inclinée 5-1 face à la Russie, une équipe russe qui de plus présentait hier soir son équipe B. Les hommes de Patrick Fischer n'ont donc pas remporté la première édition de la Lucerne Cup, les précisions de Thibaut Heyer.
Une victoire contre l'Autriche suivie d'une défaite en finale contre la Russie. L'équipe de Suisse termine l'année sur une note moyenne. L'entraîneur Patrick Fischer l'admet sans détour, ce n'étaient pas les deux meilleurs matchs de la formation à Croix-Blanche. Plusieurs aspects négatifs sont à relever. Il a manqué de la vitesse, du soutien ou encore de la simplicité dans certaines situations. Plusieurs joueurs n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu. Il n'y a toutefois pas de raison majeure de s'inquiéter en cette période de la saison. Il en sera autrement en avril et mai prochain où la sélection élevée devra montrer autre chose si elle entend défendre sa médaille d'argent décrochée cette année au championnat du monde, car la confirmation sera dans tous les esprits. Et en 2014 à Minsk, l'année suivant la médaille d'argent de Stockholm, la Suisse de Shane Simpson n'avait pas passé la phase de poule, un rappel loin d'être inutile.
On reste dans les patinoires avec tout d'abord le HC Université Neuchâtel qui se déplace affronter le HC Valais-Chablais 2 en première ligue de hockey sur glace. Le match commence à 20h et puis, hasard du calendrier, le HC Le Locle le rend également visite au HC Valais-Chablais pour y défier la 3e garniture. Un match de 2e ligue dont le coup d'envoi sera donné à 16h30. Toujours dans la même catégorie, Star Chaud-de-Fonds s'en va défier le HC Le Mouret à 17h30. En volleyball, les deux équipes féminines de Ligue B sont en lice aujourd'hui. Le NUC 2 affronte dès 16h le VBC Gerlafing en terre soleroise. Déplacement aussi pour le VBC Val de Travers qui sera aux prises avec Terville à partir de 17h30. On termine avec du judo et Evelyne Chop qui a flirté avec le podium lors de sa 3e participation de la saison à une finale du top 16 à Guangzhou dans le sud de la Chine. Elle a pris le 5e rang des World Masters.
Midi 29. Quelques éclaircies devraient percer cet après-midi avec des températures toujours froides, moins 1 à 0 degrés au maximum. Demain, retour de nuages plus épais avec probablement des précipitations. La limite de la neige remonte vers 1200-1500 mètres.